bienvenue dans Focus Sahel, en direct de Washington sur VOA Afrique, avec Eric Manirakis.
Bonsoir à toutes et à tous, et bienvenue dans Focus Sahel, qui vous offre une perspective unique sur la région. Et chaque semaine, nous explorons les nombreuses facettes de la vie au Sahel. Au menu ce soir, le Niger au cœur de la lutte contre le trafic de drogue dans un contexte de menaces persistantes des groupes armés. L'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime a enregistré des saisies importantes en 2022 dans le Sahel. L'UMOA lève la suspension du Mali et réintègre ses organes et institutions. Nouvelle étape vers la normalisation politique et institutionnelle. C'est dans notre fait marquant de la semaine. La crise sécuritaire affecte le secteur du tourisme dans la région de Bandiagara au Mali. Mais l'espoir renaît avec la reprise des festivals du plateau Dogon. Et préserver les manuscrits anciens de Tombouctou, une lueur d'espoir pour la résolution de la crise au Mali, selon Dr Abdelkader Haïdara, qui s'occupe de la conservation de cette richesse inestimable. Vous nous suivez en direct sur VOA Afrique, Facebook et YouTube. Je suis ravi que vous vous joigniez à nous dans ce voyage de découverte et de dialogue. Bienvenue. L'année 2022 a connu une augmentation significative des saisies de drogue au Sahel, indique l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime. Cette région du continent africain, depuis longtemps confrontée au terrorisme, est devenue un terrain propice au trafic en raison de la prolifération des groupes armés extrêmement actifs. Ce soir, nous nous focalisons sur le cas spécifique du Niger dans ce reportage réalisé par notre correspondant sur le terrain, Abdelrazak Idrissa. Suivez.
Le ministre de l'Intérieur, Hamadou Adamou Soulé, allumant le feu d'incinération des drogues saisies à l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre la drogue. Ces dernières années, en effet, d'importantes quantités de drogue sont saisies par les services compétents nigériens.
Le dimanche 15 janvier 2023, l'Office central de répression du trafic illicite des stupéfiants recevait une information sur un colis constitué de lits en bois transportés dans un bus de transport voyageurs en provenance de Kumasi, Ghana, susceptible de contenir de la drogue. Au total, ce sont 10 lits suivant le même emballage qui ont été saisis et contenant ces 335 briques de cannabis. Ce mode opératoire révèle un trafic de drogue bien organisé et longtemps entretenu. La drogue a quitté le Ghana, traversé le Togo et le Bénin avant d'arriver ici à Niamey, où elle a été saisie. L'essentiel de cette drogue est destiné à Gao, au Mali.
Du fait de sa relative stabilité et de sa position géographique, une bonne partie du trafic de drogue passe de plus en plus par le Niger. Une situation assez inconfortable pour les autorités publiques.
Autant le terrorisme est une agression contre notre pays, autant ce phénomène de la drogue, la manière dont la drogue pénètre dans sur notre territoire, moi je vis ça comme une agression contre notre pays. Et heureusement que le Critus est là pour lutter et il faut s'en féliciter. Aujourd'hui, le Niger est considéré comme étant champion en la matière.
C'est pour toutes ces raisons que le pays a été sans doute choisi pour lancer le rapport 2023 de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, un rapport qui révèle, au-delà de l'explosion du chiffre des saisies dans le Sahel, une connexion inquiétante entre le trafic de drogue et l'activité des groupes terroristes qui écument la zone.
Les trafics de drogue financent en partie divers groupes armés dans la région, à travers surtout le paiement des taxes en échange d'une protection à travers les zones contrôlées par ces mêmes groupes dans les Sahel.
Le dernier exemple, c'était une affaire judiciaire de mars 2019. Les autorités ont saisi 800 kilos de cocaïne dissimulés dans un camion chargé de poissons congelés qui a été saisi en Guinée-Bissau. Et la cargaison appartenait à un Malien qui avait des contacts, selon les panels d'experts sur le Mali, et à Almora Bitoun. Et on voit de plus en plus la diversification des ressources financières par les groupes armés à travers le trafic de cocaïne, le trafic de cannabis, mais aussi la traite de personnes, le trafic illicite de migrants, de plus en plus. On les voit de plus en plus.
Entre 2021 et 2023, les forces de sécurité intérieure du Niger ont saisi plus de 17 tonnes de résine de cannabis, près de 9 tonnes d'herbe de cannabis et 218 kg de cocaïne. Abdel Razak Idrissa, à Niamey, pour VOA Afrique.
Merci à Abdelrazak Idrissa qui est en ligne avec nous pour approfondir le sujet. Razak, bonsoir.
Bonsoir Eric.
Alors, quelles sont les principales routes de trafic de drogue au Niger et comment ces routes ont-elles évolué au fil du temps?
Bien, écoutez, les principales routes, on va dire, c'est vraiment cette immense partie nord désertique du pays. Vous voyez un peu près de la frontière avec la Libye. C'est vraiment un des corridors, sinon le plus grand corridor pour d'ailleurs tout type de trafic. Vous savez que c'est la partie nigérienne du Sahara. Et le Sahara a toujours été un terrain actif pour les trafics, trafic de migrants, trafic d'armes, trafic de cigarettes, trafic de faux médicaments et bien sûr donc trafic de drogue. Donc vous avez donc toute cette partie nord désertique du pays qui est un grand couloir de trafic de drogue. Après vous avez aussi cette drogue pour qu'elle arrive justement à cette partie nord désertique pour être acheminée vers le Maghreb et peut-être vers l'Europe. Cette drogue donc passe aussi par les régions frontalières avec des pays voisins tels que le Nigeria ou encore le Bénin. Il s'agit donc de ces régions du centre-ouest, puisque généralement les saisies sont opérées par les forces de sécurité dans cette partie du centre-ouest du pays.
Comment les populations locales sont-elles affectées par cette situation, Razak?
Alors, elles sont affectées puisque, vous savez, jusqu'à une date récente encore, le pays était juste un pays de transit de drogue. Mais de plus en plus, la drogue est consommée surtout par les jeunes et cela est très inquiétant. Et vous savez également aussi que le pays fait face à une crise sécuritaire depuis quelques années déjà et que cette crise est en partie, comme l'a relevé le rapport de l'ONIDC, est en partie donc financée par ce trafic. Donc le pays est fort. Les populations sont fortement affectées par ce trafic de drogue.
Quelles sont les mesures préventives, répressives mises en place par les autorités de Niamey pour combattre ce trafic?
Alors, il faut peut-être déjà annoncer la mise en place d'une commission nationale donc de coordination de la lutte contre le trafic de drogue. C'est une commission multisectorielle. Mais ce qu'il faut surtout noter, c'est vraiment les forces. Les forces de sécurité à travers l'Office central de répression du trafic illicite qui fait un gros travail. Il ne se passe pratiquement pas, on va dire, un mois, quelques semaines sans que ce service de la police ne puisse mettre la main sur des réseaux de trafiquants qui se présentent à la presse. Et donc, c'est à travers cela surtout que l'État du Niger essaie de lutter contre ce trafic, donc dans la répression, mais aussi et surtout dans la prévention à travers des sensibilisations sur le danger de la consommation de la drogue, mais aussi sensibiliser un peu les populations sur le fait que s'inscrit dans cette logique, fait en sorte que le pays, l'économie du pays risque d'être une économie criminelle et cela est très très dangereux pour un pays qui est un pays en voie de développement. Donc, il y a vraiment des mesures que les autorités ont prises pour pouvoir endiguer en sensibilisant sur le danger de la consommation, mais aussi en réprimant à travers les saisies et aussi à travers
actions judiciaires qui sont menées contre les personnes membres des réseaux de trafic qui sont interpellées.
Merci beaucoup Abdelrazak Idrissa pour toutes ces explications et bonne soirée chez vous. Au Niger, évidemment, le trafic de drogue menace la région du Sahel et ses voisines, prévient un rapport de l'ONU. Et pour analyser la situation et mieux comprendre cette réalité, nous sommes heureux de recevoir Flore Berger, analyste Sahel du JITOC, c'est l'Observatoire des économies illicites en Afrique de l'Ouest au sein de l'Initiative mondiale contre la criminalité transnationale organisée. Flore, bonsoir.
Bonsoir, merci pour l'invitation.
Quels sont les enjeux économiques et sociaux du trafic de drogue au Sahel? Existe-t-il des liens entre ce trafic et le financement des groupes terroristes?
Oui, alors je pense que d'abord la première chose qu'il faut bien comprendre, c'est que le trafic de drogue au Sahel est en expansion. Donc à l'heure actuelle, avec les cultures qui sont très prospères en Amérique latine et la demande très importante du marché européen, le trafic de drogue se porte bien. Et donc le Sahel, comme l'a déjà expliqué votre correspondant, est une zone clé dans ce trafic transnational. Et en fait, c'est important parce que pour nous, l'enjeu majeur, c'est vraiment dans la région à l'heure actuelle, c'est la consommation locale qui a déjà aussi été mentionnée par Idrissa. Et c'est vrai que le Sahel est une zone majoritairement de transit, c'est toujours vrai, mais il y a quand même un marché local qui se développe de plus en plus ces deux, trois dernières années. Et en fait, c'est lié à cette augmentation du transit parce que ce qui se passe, et ce qu'on voit dans d'autres régions également, c'est que les petits trafiquants ou les transporteurs, par exemple, ils sont en fait payés en nature, donc en drogue, c'est surtout la cocaïne et le crack, et ils vont en fait écouler cette marchandise localement et créer comme ça des marchés locaux de consommation de drogue avec de la drogue qui est vendue vraiment à des prix très bas. Et c'est vraiment une tendance qui s'accélère au Sahel, dans les villes, les capitales, mais aussi dans des régions reculées comme à Agadez, dans le nord du Niger. Et pour nous, c'est vraiment l'enjeu numéro un parce que c'est une augmentation alarmante et il y a des risques très grands pour les consommateurs et les impacts sur la santé. Et quand même, malgré ça, peu de soutien, peu de structures pour répondre à ce danger-là et par exemple pour prendre en charge les consommateurs. Donc pour nous, c'est vraiment l'enjeu numéro un.
Et qu'est-il de la coopération régionale entre les pays du Sahel pour lutter contre ce trafic et quels sont les défis auxquels les autorités sont confrontées dans leurs efforts pour endiguer ce fléau?
Oui, alors j'ai pas répondu à la question sur le financement, mais ça avait été déjà mentionné plus tôt, donc c'est surtout au niveau de la taxation. Hein. Je pense qu'il faut bien rappeler que les liens entre les groupes armés et le trafic, en fait, il y a assez peu de preuves qui nous permettent de dire qu'ils sont directement impliqués. En fait, vraiment dans les faits, c'est à travers la taxation, donc de manière indirecte. Et c'est vraiment important de le soulever. Ensuite, donc pour votre question par rapport à la coopération, donc évidemment il y a des choses qui sont faites, il y a des initiatives qui existent. C'est notamment une préoccupation pour l'Europe, vu que la drogue qui passe par le Sahel est vendue en Europe. Il y a plusieurs initiatives, donc au niveau de la répression, avec des saisies, qui ont été mentionnées, au niveau du contrôle des frontières, avec des renforcements des capacités, par exemple des missions de l'Union européenne. Mais on voit bien aujourd'hui que la guerre contre la drogue, avec cet arsenal de mesures, apporte en fait assez peu de résultats en termes de réduction du trafic. Et je pense que les obstacles aujourd'hui dans le Sahel, il y en a deux principaux. Le premier, c'est le conflit et l'avancée des groupes extrémistes violents dans le Sahel, mais aussi vers les pays côtiers, qui est la priorité principale. Donc, il y a peu de ressources à consacrer contre le trafic de drogue. Et en plus, même s'ils voulaient en faire une priorité, et je m'arrêterai là, c'est que les autorités nationales ne contrôlent pas tout leur territoire. Au Burkina, par exemple, près de la moitié du territoire leur échappe. Le nord du Mali échappe aussi en grande partie aux autorités de Bamako. Donc les capacités de réguler et de contrôler ce qui se passe dans ces zones frontalières sont très limitées à l'heure actuelle.
En quelques secondes, vous venez de souligner les principales initiatives en cours. Il existe donc cette collaboration internationale pour aider ces pays du Sahel pour s'attaquer aux causes profondes de cette situation. Est-ce que c'est possible?
Alors, comme je disais, c'est compliqué. Hein. Il y a des initiatives et c'est vrai que ça rend peut-être la chose moins facile à certains trafiquants, mais ils s'adaptent très, très bien. Ils changent leur technique, ils utilisent de plus en plus d'itinéraires différents où ils cachent la drogue avec le poisson, comme on a entendu plus tôt. Donc vraiment, je pense que les résultats sont très limités à l'heure actuelle.
Flore Berger, analyste Sahel du JITOC, l'Observatoire des économies illicites en Afrique de l'Ouest au sein de l'Initiative mondiale contre la criminalité transnationale organisée. Merci de votre expertise et perspective sur cette question de trafic de drogue au Sahel. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Le Sahel, une région à la croisée des chemins. Focus Sahel, votre nouvelle émission sur VOA Afrique.
Crise sécuritaire, montée de l'extrémisme, déplacement de populations, influence étrangère. VOA Afrique braque ses projecteurs sur la bande sahélo-saharienne pour vous aider à comprendre les enjeux qui sévissent dans cette région et les événements qui rythment la vie de ces pays.
Retrouvez nos équipes à Washington et nos correspondants sur le terrain pour des reportages, des analyses et des interviews.
Pour tout comprendre sur le Sahel, rendez-vous tous les mardis à 18h au temps universel sur VOA Afrique, voafrique.com et toutes nos plateformes digitales.
Dans la région de Bindagara, dans le centre du Mali, la crise sécuritaire a entraîné la fermeture de nombreux établissements touristiques. Cependant, cette année, la reprise des festivals au plateau d'Ogon suscite un regain d'espoir pour le retour de la paix et la relance complète des activités touristiques. Ces festivals sont considérés comme un moteur économique vital pour la région. De Koro, la correspondance est signée Tidiani Ouedra Ogosu.
La falaise de Bandiangara est un haut lieu du tourisme qui fascinait des milliers de visiteurs chaque année. Une région qui regorge de nombreux sites touristiques, mais la situation sécuritaire a complètement secoué le secteur. Comme Hadi Gindou, beaucoup de promoteurs touristiques profitaient bien du dynamisme du secteur avant la crise sécuritaire au Mali.
Dans ma galerie, il y a de l'artisanat. Et pendant la période touristique, les touristes venaient visiter et il y a d'autres qui achetaient aussi. Bon, dans l'achat, je profitais et mes artisans qui venaient me vendre des sculptures, ils profitaient beaucoup. Mais depuis que le tourisme a baissé, bon, voilà des objets qui sont là et qui sont en train de pourrir.
Une situation qui a conduit beaucoup de guides touristiques au chômage. Suleiman Guiré est un ancien guide. Il était au chômage pendant des années avant de créer sa propre entreprise.
Bien avant, au moment où le pays était stable, moi je vivais du tourisme, je suis un guide touristique. Au moment où l'insécurité a envahi le Mali, on a souffert au moins 1 an, 2 ans, et après on s'est dit que okay, bref, il faut se débrouiller et faire quelque chose. Maintenant là, tu vois, les préférés que tu vois là, maintenant actuellement tu sais qu'ils défendent moi.
Beaucoup de sites touristiques sont dans un état de dégradation avancée. Cette année, la reprise de certaines activités touristiques au pays d'Ogon constitue un espoir pour la région. Et Rebecca Togo ne cache pas ses sentiments.
Ça prouve que la paix est de retour progressivement. Sinon, il y a de cela quelques années, organiser un tel festival était pratiquement impossible dans notre zone ici.
Pendant une semaine, des festivaliers venus de l'intérieur du pays ont revisité la diversité du pays d'Ogon à travers chants et danses. Yabuyo Togo est une festivalière.
Je suis très contente et très ravie. Le Mali a besoin de ça aujourd'hui, là où nous sommes. Réunir ces dignes autour de la culture, de la paix et la cohésion sociale.
Une reprise étant souhaitée pour permettre à des milliers de touristes de revisiter la beauté du plateau d'Ogon de Sanga, les masques de Irili et les sites d'eau de Ndé. Tidiane Ouedraogo, Koro, VOA Afrique.
Voilà, nous restons au Mali où l'Union économique et monétaire ouest-africaine, ou UEMOA, a annoncé la levée de la suspension du Mali de ses organes et institutions. Cette suspension avait été imposée en janvier 2022 pour sanctionner l'intention de la junte militaire de prolonger de plusieurs années son maintien au pouvoir. C'est notre fait marquant de la semaine et pour en parler, je suis en ligne avec Sekou Tangara de notre station partenaire à Bamako, Africable Télévision. Sekou, bonsoir.
Bonsoir Eric.
Alors, maintenant que l'UEMOA a levé la suspension du Mali de ses organes et institutions, en complément de la levée des sanctions commerciales et financières par la CEDEAO en juillet 2022, quelles sont les perspectives de changement à venir?
Voilà, les perspectives, elles s'annoncent bonnes, hein, parce qu'il faut rappeler que parallèlement à ces restrictions financières et économiques de l'UEMOA et de la CEDEAO, depuis 2 ans pratiquement, le Mali fait l'objet également de gels, hein, de subventions de coopération économique de ses partenaires occidentaux, en l'occurrence l'Union européenne. Donc depuis 2 ans, l'économie ne reposait que sur des entrées au niveau interne faites par les services des assiettes, la douane, les impôts et puis les finances. Donc cette levée de sanctions va constituer un ouf de soulagement puisque l'année dernière, par exemple, le Mali avait essayé de tenter des levées de fonds au niveau de la BCAO, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, et sur une demande de 150 milliards, c'est quasiment la moitié qui a été obtenue. Et aujourd'hui, donc, on peut parler de bonnes perspectives avec cette levée de sanctions. Désormais, le Mali ne ferait plus face à ces contraintes-là.
Comment les médias locaux ont-ils réagi à cette information et quelles sont les réactions suscitées au sein de la population par cette mesure de l'UEMOA?
Voilà, nous avons tenté de faire une revue de presse hier et aujourd'hui et sur la trentaine de publications, il y a quasiment 2 seulement, à savoir le Sursaut et le Confident qui ont salué cette levée de sanctions. Les autres journaux, dans leur majorité, ont juste relégué au second plan cette information. À la limite même, ils pensent que c'est un non-événement. Alors, pour la réaction du public, hein, tout de suite avant votre émission, je suivais une radio qui a une émission interactive où les auditeurs appellent. Et là également, les avis sont partagés. Si pour certains, cette levée des sanctions va continuer, va permettre à l'économie malienne de respirer, pour l'autre majorité également, c'est un non-événement et ce n'est que justice, hein, parce que le Mali avait attaqué cette décision auprès de la Cour de justice de l'UEMOA et on se rappelle que le juge communautaire avait donné raison au gouvernement du Mali en sommant la conférence des chefs d'État de remettre le Mali dans ses droits. Donc pour cette frange d'auditeurs, cette décision n'est que justice. L'UEMOA suit une décision de la Cour de justice.
Sekou, il nous reste quelques secondes. Le président nigérien Bola Tinubu a été choisi pour diriger la CEDEAO à partir de 2024. Son intention est de combattre les changements anticonstitutionnels et la création d'une force régionale de 5000 hommes. Plus de tolérance des coups d'État successifs dans la région. Votre pays est concerné. Comment son projet est-il perçu à Bamako?
C'est un projet qui passe mal, hein, puisque pour la majorité de Maliens, c'est une erreur d'appréciation. D'abord, au Mali, ici, on pense que le problème n'est pas un problème d'élection. Si c'était un problème d'élection, le président Ibeka avait été élu et réélu, mais ça n'a pas empêché le coup d'État. On peut même continuer le parallèle avec et puis du Burkina Faso. Alpha Condé également avait été élu et réélu, mais ça l'a pas empêché de tenter un troisième mandat qui lui a été fatal. Au Burkina, Roch Marc Christian Kabore a également été élu et réélu. Donc, il y a une erreur d'appréciation. La CEDEAO ne peut pas imposer des modèles exportés sur des situations complexes. Ici, au Mali, les populations pensent d'abord à la sécurité, au recouvrement de l'intégrité territoriale, et puis après des réformes institutionnelles avant de passer à des élections.
Merci à Sekou Tangara de notre station partenaire à Bamako, Africable Télévision, pour toutes ces explications.
Merci. Thank you.
Depuis l'invasion des régions du nord du Mali en 2012 par des groupes terroristes, de précieux manuscrits de Tombouctou ont été déplacés de leur lieu de conservation en vue de prévenir leur destruction. Dans la perspective de préserver cette richesse inestimable, Dr Abdelkader Haïdara, natif de la ville, dirige une équipe au sein de l'ONG Savama. Leur mission consiste à construire des bibliothèques et à numériser ces documents historiques. Notre correspondant Mohamed Danyoko a rencontré le docteur Haïdara, qui est convaincu que les manuscrits de Tombouctou peuvent jouer un rôle essentiel dans les dialogues et les négociations visant à sortir le Mali de la crise qu'il traverse depuis plus d'une décennie. Suivez son reportage.
Au sein de l'ONG Sauvegarde et Valorisation des Manuscrits pour la Défense de la Culture Islamique, le premier responsable, Dr Abdelkader Haïdara, veille sur ces documents comme du lait sur le feu. La nature fragile de ces manuscrits, vieux de plusieurs siècles, nécessite une prise en charge délicate. Il en est de même du processus de traitement que subissent ces documents pour une meilleure conservation.
Pour nettoyer le manuscrit, parce qu'il y a beaucoup de poussière, il y a des traces de loup, traces de termites, tout ça, ça amène beaucoup de saleté, beaucoup de poussière, donc tout commence par ça. Après ça, il faut les classer, parce qu'ils sont en désordre. Après le classement, il faut les amener chez le conservateur qui va faire le boîte, pour fabriquer le boîte pour chaque manuscrit pour le conserver. Voilà.
Dans ces boîtes, plus de 300 000 manuscrits récupérés auprès des familles à Tombouctou en collaboration avec le centre Ahmed Baba de la ville sont soigneusement sauvegardés. Pour les manuscrits restés avec les familles sur place, des solutions sont mises en œuvre pour leur conservation dans de meilleures conditions.
On a trouvé qu'il y a certaines familles qui ne voulaient pas donner tous leurs manuscrits, ils voulaient garder une grande partie de leurs manuscrits. On a trouvé qu'ils n'ont pas de moyens de conservation. Donc nous, notre rôle, c'est d'aider ces détenteurs de manuscrits à bien conserver leurs manuscrits chez eux-mêmes. Leur aider à construire des bibliothèques pour bien conserver ces manuscrits.
En plus de la sauvegarde et de la conservation, l'ONG numérise ses manuscrits depuis 2014. À ce jour, ce sont 340 000 manuscrits qui ont été numérisés avec plus de 5 millions d'images pour le bonheur des chercheurs et des étudiants du monde entier.
Parce que même si on perd un manuscrit, on a toujours l'image. Et ça facilite la consultation des chercheurs, des étudiants directement sur les images, sur les supports informatiques.
Pour le docteur Abdelkader Haïdara, ces manuscrits contiennent des recettes pour amener la paix au Mali.
Il y a beaucoup de manuscrits qui parlent de résolution de conflits. On a besoin de ça, il faut traduire ça, il faut publier ça, il faut faire des conférences autour de ça. On a commencé ça, on a fait beaucoup, mais il faut continuer, il faut amener ça partout. Il y a des manuscrits qui parlent de tolérance. On a besoin de tolérance entre toutes les communautés. Il y a des manuscrits qui parlent de droits de l'homme. Il faut parler de ça, il faut les traduire. Il y a certains manuscrits qui parlent de culture de la paix. Il y a des manuscrits qui parlent de cohésion sociale. Il y a des manuscrits qui parlent de pardon. S'il n'y a pas de pardon, comment on peut se retrouver? Comment on va vivre ensemble?
Travailler à la vulgarisation de ces solutions endogènes pour un retour définitif de la paix au Mali est aujourd'hui le leitmotiv de l'ONG Savama et de ses partenaires. Mohamed Danyoko pour VOA Afrique, Bamako.
C'est la fin de cette édition de Focus Sahel. Merci à notre public qui nous a accompagnés dans ce voyage au Sahel. Vous êtes nombreux à nous suivre sur Facebook. Merci également à nos invités qui ont partagé avec nous leurs expertises et leurs points de vue. Enfin, je n'oublie pas nos correspondants qui se sont surpassés pour vous apporter ces nouvelles de la région. Eric Manilakis a été avec vous au micro. Lionel Nonelagaïma et Trésor Matondé ont assuré la mise en onde. Nous vous remercions d'avoir écouté Focus Sahel et nous vous disons à très bientôt.
c'était Focus Sahel. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage à travers l'une des régions les plus complexes de la planète.
Vos points de vue, vos défis, vos récits et vos contributions sont les bienvenus. Laissez-nous vos commentaires sur voaafrique.com ou sur notre page Facebook VOA Afrique.